Si nous voulons tracer le fil rouge des lectures que nous venons d'entendre, c'est certainement la joie qu'il faut retenir. Cette joie qui vient à travers le prophète Sophonie, qui est rappelée par l'apôtre Paul et que dans les évangiles on voit aussi. Mais qu'est-ce que la joie ? La joie a beaucoup à voir avec l'humilité. Parce que si c'est la joie qui est le fil rouge des lectures, ça peut être aussi l'humilité. On voit l'humilité de ces personnes qui se font baptiser par Jean et qui posent la question « Que devons-nous faire ?» Chacun selon sa profession, Jean leur indique un chemin. Mais Jean-Baptiste lui-même est un maître d'humilité. Vous le savez, c'est avec la Vierge Marie, la grande figure de ce temps de l'Avent. C'est aussi le saint patron des maîtres des novices que Jean-Baptiste, parce qu'il ne met pas son centre sur lui-même, mais il renvoie au Seigneur en toutes choses. Mais qu'est-ce que l'humilité ? Qu'est-ce que l'humilité ? L'humilité, d'abord, on pourrait parler à partir d'une étymologie. Humilité vient de humus, humus, terre, l'humus qui a formé le mot homme. C'est cette terre dans laquelle peut grandir toutes les vertus. Et on voit bien qu'une personne qui a des tas de talents, des tas de charismes, mais qui sont malheureusement portés par un orgueil, un ego démesuré, cette personne-là, eh bien, ses charismes, ses talents se perdent. L'humilité, c'est une vertu. Et ça veut dire quoi ? Vertu, c'est quelque chose qui s'acquiert par la répétition des actes. On ne naît pas humble, on le devient. Eh bien, c'est par cette répétition des actes que nous pouvons découvrir aussi dans l'humilité un lieu de fécondité pour notre vie. Si ce troisième dimanche du temps de l'Avent est un temps singulièrement centré sur l'humilité, c'est qu'il est aussi centré sur la fécondité de nos vies, porter du fruit et du fruit en abondance. Ce serait quoi l'inverse de l'humilité ? On pourrait dire plutôt la toute-puissance, je préfère ce mot toute-puissance au mot orgueilleux. Toute-puissance, des toute-puissances, vous le savez, il y a trois formes de toute-puissance, toute-puissance de la chair, toute-puissance des richesses, toute-puissance de l'esprit. Cette manière de donner à nos désirs l'infini de l'intelligence. On donne à nos désirs l'infini de l'intelligence. Et donc, on voit bien qu'en nous, il y a un combat spirituel. Un combat spirituel pour accueillir notre juste place. J'aimerais avec vous méditer sur les différents aspects de l'humilité. Le premier auquel on ne pense pas beaucoup, c'est l'humilité face au temps. Face au temps, c'est accueillir son rythme. Accueillir le rythme de l'autre, accueillir le rythme de Dieu. Le temps, surtout dans cette période de l'Avent, ce n'est pas quelque chose qui passe, c'est quelqu'un qui vient. Le temps, c'est aussi l'invitation à une patience. S'il y a ce temps de l'Avent, c'est précisément pour que nous puissions découvrir dans ce temps de l'Avent un lieu de la patience. Accueillir le rythme de l'autre, la manière de faire de l'autre, la rapidité ou la lenteur de l'autre. On le voit bien, vous qui êtes en couple ou moi qui suis en communauté, eh bien, on voit bien que c'est quelque chose qui est compliqué, parfois complexe, en tout cas pour nous. Ça demande une vraie humilité. Nous n'avons pas tous le même rapport au temps, que ce soit ceux qui ont un désir de voir les choses très rapidement, que ce soit ceux qui, au contraire, prennent leur temps et prennent un temps un peu long, ceux qui anticipent beaucoup, ou ceux qui, au contraire, font à la dernière minute, ceux qui sont du matin ou ceux qui sont du soir. On n'a pas le même rythme par rapport au temps. Et cette question du temps, eh bien, elle n'est pas si simple que ça. Elle demande une vraie humilité, parce que c'est précisément en accueillant le rythme de l'autre qu'on accueille la personne de l'autre. Mais il y a le rythme de Dieu. On voit bien que le rythme de Dieu, eh bien, c'est quelque chose qui est encore peut-être plus complexe. parce que ça demande une vraie patience. Et dans le mot patience, vous entendez passion, passion, la passion du Christ. Voilà, il y a quelque chose d'une pénibilité dans la patience, hein, parce que c'est précisément ça. Et donc, je vous dis, la joie, elle est liée aussi à l'accueil du rythme, à l'accueil du temps de l'autre. Mais aussi, la joie, c'est un accueil, une humilité face au corps. Face au corps, que ce soit avec ses limites, que ce soit les limites liées à la santé, au handicap, les limites liées à l'âge. Oui, les limites du corps, le corps nous rappelle à nous-mêmes les limites, que nous sommes des personnes limitées. Et si le Christ, dans ce temps de l'Avent, qui est par excellence le temps de l'incarnation et qui nous conduit à Noël, si le Christ nous rappelle précisément qu'il a voulu prendre chair de la Vierge Marie, c'est précisément qu'il a voulu aussi prendre notre corps et que nous prenions aussi soin de notre corps. Nous accueillons les limites de notre corps. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Et c'est une source de joie d'accueillir les limites du corps. Parce que c'est vrai, on voit souvent la limite comme une menace, alors qu'elle est un lieu de contact avec le Seigneur, un lieu de joie. Alors c'est intéressant que nous puissions nous interroger dans ce soir, de dire quel est le rapport que nous avons avec notre corps, la limite aussi par rapport au corps de l'autre, vous qui êtes en couple, que ce soit dans l'intimité des époux, bien oui, il y a ce qu'on appelle la chasteté, vous faites bien la différence avec l'abstinence. L'abstinence, c'est renoncer à toute relation sexuelle, c'est ce que j'ai fait profession dans ma vie religieuse. Mais la chasteté, c'est une juste distance par rapport au corps de l'autre. Et ça, c'est dans toutes nos circonstances de vie, singulièrement ceux qui sont en couple, mais nous avons à avoir une juste distance, justement ne pas être dans un orgueil, une toute puissance face au corps de l'autre, découvrir le corps de l'autre comme un sujet et non pas comme un objet. Oui, l'humilité, c'est aussi l'humilité face à l'intelligence, c'est certainement la chose la plus compliquée. Ça paraît un peu contradictoire dans les termes d'une certaine manière, parce que dans l'intelligence, il y a quelque chose d'infini. Vous savez que l'intelligence et la volonté, ce sont ces deux facultés qui font qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a quelque chose, on peut tout vouloir connaître, on peut tout vouloir aimer, et on le sait bien, la volonté, c'est cette capacité d'aimer. Oui, il y a une humilité de l'intelligence. L'humilité de l'intelligence, c'est laisser le réel féconder notre intelligence. Laisser le réel féconder notre intelligence, c'est-à-dire accueillir Dieu, du réel, de ce qui fait notre vie, eh bien, une source de joie pour notre capacité de connaître. Oui, c'est intéressant de découvrir aussi que dans ce réel, il y a une source de fécondité pour notre intelligence. Et c'est parfois complexe, parce que précisément, eh bien, on voudrait que la joie intellectuelle, ce soit juste des concepts bien huilés, et on le sait très bien, les idéologies, c'est précisément cette négation du réel. Les idéologies, c'est précisément cette capacité à vouloir faire que le réel soit comme moi je pense qu'il doit être. On se rappelle des grandes idéologies du XXe siècle, nazisme et communisme, mais je veux dire, l'idéologie est aussi en nous-mêmes, ne la nions pas. Il y a un combat aussi spirituel. Mais la vraie joie de l'intelligence, c'est d'accueillir le réel, c'est d'accueillir cette capacité de donner et à travers et de comprendre, de lire à l'intérieur du réel l'être des choses. Vous savez que le temps de l'Avent, c'est un temps contemplatif. Et on voit bien que la nature se recueille. Hein, on est dans les mois les plus courts, on va vers les mois les plus courts de l'année. Donc, vers grosso modo, 5 heures de l'après-midi, déjà il fait nuit. Comme si on se rappelle qu'il y a un recueillement de la nature qui nous invite nous-mêmes à une dimension contemplative. Eh bien, précisément, notre intelligence, elle se réjouit quand elle contemple. Quand elle contemple les réels, quand intelligence, c'est intus legere, vous le savez en latin, lire à l'intérieur des choses. Cette capacité de lire à l'intérieur des choses. Alors oui, c'est cette capacité aussi de renoncer à donner à nos désirs l'infini de l'intelligence, parce qu'il y a quelque chose d'infini dans notre... On peut tout connaître, potentiellement, on peut tout connaître. Et justement, de renoncer à ce que nos désirs soient mis au... notre intelligence soit mise au service de nos désirs. Et on voit bien que la foi, par exemple, et ça c'est important de le rappeler, la foi, elle est dans l'intelligence. La foi, elle n'est pas dans la sensibilité. La foi, elle élève notre intelligence à des réalités qui ne sont pas accessibles aux cinq sens. Hein, c'est important de le rappeler, la foi qui nous permet d'aller au-delà du visible, du réel, hein, de ce réel qui est tangible, mais qui nous permet d'avoir une autre lecture que celle uniquement donnée par les cinq sens. Alors oui, la foi, ça rend notre intelligence humble. La foi, elle est source de joie dans ce sens-là. Et puis, il y a ça aussi l'humilité de la volonté. L'humilité de la volonté, on voit bien en nous qu'il y a parfois un désir d'avoir raison, d'avoir le dernier mot. Il y en a qui sont peut-être plus têtus que nous dans cette assemblée, et que d'autres que dans cette assemblée. Donc, on voit bien qu'il y a aussi un combat intérieur. Laisse les autres avoir raison. Laisse les autres avoir raison. Hein, quand on contemple la personne de Jésus, on voit comment le Christ a renoncé à avoir le dernier mot. Il a renoncé à avoir, lui qui est le Verbe de Dieu, lui qui dit Dieu, il a renoncé à avoir le dernier mot. Eh bien, c'est que nous puissions aussi renoncer à cette volonté de puissance et donc de rendre aussi, d'accueillir la parole de l'autre. Alors, parfois, on doit donner une parole, certainement, mais on voit bien que la volonté de puissance ne rend pas heureux. La volonté de puissance, elle ne rend pas heureux. La volonté de puissance, elle est au contraire, et on veut que l'autre soit à mon image et ressemblance, et c'est en nous. De même que l'intelligence, on veut que le réel soit comme moi je pense. C'est en nous. Hein, que l'autre soit à mon image et ressemblance. Voilà, bien, je crois que ça ne rend pas heureux. Vous voyez, non seulement ça ne rend pas heureux, mais ça cause beaucoup de malheur. Que ces égos surdimensionnés qui n'acceptent pas une limite, qui n'acceptent pas, au fond, une certaine finitude, qui n'acceptent pas aussi dans la volonté ce qu'on appelle l'altérité. C'est un mot un peu compliqué, mais l'altérité, c'est que l'autre est autre que moi. L'autre n'a pas à devenir moi. L'autre a aussi son chemin, a sa manière de penser, a sa manière d'organiser les choses, a sa manière... Et on voit bien que ça nous coûte. On voit bien que ça nous coûte dans le quotidien, avec les prochains proches, à la famille, les amis, parfois aussi le monde professionnel. On voit que chacun a sa manière d'organiser les choses, dans ma vie de communauté aussi. Bon. Mais justement, ce lieu où on est en contact avec les autres, ce lieu de relation, c'est un lieu de conversion. Et vous le savez, le temps de l'Avent, c'est un temps de conversion. Et c'est un temps de conversion de notre rapport au temps, de notre rapport au corps, à notre intelligence, à notre volonté. Il y a quelque chose à convertir, il y a quelque chose à accueillir dans l'autre, dans cette altérité, dans cette capacité à être différent de moi. Et on voit bien qu'en nous-mêmes, voilà, il y a un combat intérieur, il y a quelque chose qui résiste. Vous voyez, il y a quelque chose qui résiste. Hein. On veut avoir le dernier mot, on veut avoir... Eh bien, je trouve ça intéressant de dire comment le temps de l'Avent est un temps de joie, et singulièrement aujourd'hui, précisément parce qu'il nous invite à cette conversion, conversion de notre volonté, laisse les autres avoir le dernier mot. Mais aussi l'humilité, c'est aussi ça concerne notre sensibilité. Notre sensibilité. Parfois, on donne à nos émotions soit le trop ou le pas assez, soit on met le couvercle un peu comme une cocotte minute dont on tiendrait le bouchon, et donc on voit bien qu'à un moment donné, ça explose parce que les émotions, elles sont là, mais ce n'est pas aux émotions d'avoir le dernier mot. Ce n'est pas aux émotions d'avoir le dernier mot. C'est notre sensibilité, elle est là. Elle est présente, c'est bien de nommer les émotions, mais c'est bien aussi que l'émotion puisse aussi se laisser guider par quelque chose de plus grand. Et peut-être aussi, pour terminer, de se rappeler qu'il y a parfois des fausses humilités. Je pense par exemple à ce qu'on appelle, un mot qui n'est pas souvent employé, la pusillanimité. Pusillanimité, c'est-à-dire, le pusillanime, c'est celui qui... Voilà, surtout, voilà, que si on demande quelqu'un, non, je me cache dans un coin, surtout pas moi. Non, non, je ne suis pas capable, Hein, je me planque un peu, et surtout qu'on m'oublie, hein, surtout pas moi. Hein, cette fausse humilité qui est une manière aussi de toute puissance. Alors que c'est intéressant que saint Thomas d'Aquin, quand il parle de l'humilité, il parle de la magnanimité. Et la magnanimité, c'est l'inverse de la pusillanimité. La magnanimité, c'est la grandeur d'âme, magna anima, avoir une âme grande, désirer des grandes choses pour Dieu, des grandes choses pour son prochain, des grandes choses pour son pays, se laisser enthousiasmer par le bien, le beau, le vrai. Alors je trouve que c'est intéressant de voir que l'humilité, son synonyme, c'est le courage. Le courage est un signe d'humilité. Précisément, désirer des choses, aller au-devant parfois de ce qui est difficile, mais parce qu'il y a un bien à défendre, il y a quelque chose qui va au-delà même de mon intérêt personnel, qui touche bien d'autres personnes, eh bien oui, c'est intéressant de me poser la question, où est-ce qu'on en est de cette humilité qui donne aussi une joie, qui est une vraie joie, justement, le fait d'aller au-delà de soi-même, d'aller au-delà de ses propres préoccupations, d'être au contraire préoccupé du bien commun, par exemple, de quelque chose qui est plus grand que soi, que ce soit dans notre famille, dans notre vie professionnelle, dans notre vie ecclésiale, voilà, on est occupé par quelque chose de plus grand que soi-même. Alors c'est vrai, et c'est ça qui rend heureux. Quand on est uniquement centré sur nous-mêmes, centré sur notre propre intérêt ou centré sur nos peurs, comme le cas du pusillanime, eh bien oui, ben, ça ne rend pas heureux. Il est en train de toujours se protéger, de mettre des barrières partout, etc., surtout pour qu'on ne pense pas à lui. Voilà, c'est des tas de peurs qui sont derrière soi. Ça ne rend pas heureux. Je trouve ça intéressant que nous puissions aussi, nous-mêmes, en ce soir, méditer sur la joie et l'humilité, ce rapport entre les deux. Et peut-être, dans ce temps de silence que nous allons prendre, de dire, tiens, au Seigneur, qu'est-ce qui, par rapport à notre rapport au temps, par rapport à notre rapport aussi au bien matériel, hein, par rapport à notre corps, à notre intelligence, notre volonté, notre sensibilité, et puis par rapport au courage, qu'est-ce que l'on a aussi à retravailler, quels sont les points de conversion, quels sont les points de décentrement, qu'est-ce qui est encore trop attaché à ce qui pourrait être des formes de peur, puissions-nous par ce travail sur nous-mêmes, devenir les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.